Nous placer devant le Seigneur pour ce temps où nous allons ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci parce que, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit qui est avec nous, qui est en nous, sur nous, Seigneur, et qui va encore nous parler au travers de ta parole. Seigneur, merci pour ce moment où nous pouvons ouvrir ta parole qui est esprit et vie et qui va encore nous faire du bien. Seigneur, chacun à sa manière. Seigneur, tu veux peut-être évoquer un point dans nos vies. Bien, fais-le par la révélation que tu vas nous apporter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, je pense que vous avez vu le fil conducteur de ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment dans notre communauté pour nous amener à mieux comprendre notre identité, qui nous sommes. Et les pasteurs qui sont venus, que ce soit Dan Snead, donc Olivier en a parlé, ou Jean-Paul Englert la semaine dernière, abordent ces mêmes points alors qu'ils ne sont pas du tout au courant de ce que nous vivons. Alors, comme moi-même, j'ai commencé un message qui n'est pas encore terminé sur l'idole de l'identité, hein, que nous pouvons en faire une idole. Et je vois qu'il y a déjà des choses qui sont passées. Laurence m'a partagé aussi ce que le Seigneur lui a montré sur ce point-là. Je crois que c'est très important parce que ça nous donne une grande liberté lorsque nous rentrons réellement dans notre identité. Et il y a plusieurs degrés de la compréhension de l'identité, il y a une compréhension générale et des choses qui vont plus loin, plus profond en nous, comme les idoles, hein, il y a des idoles superficielles, des idoles en profondeur, et tout cela, ça nous donne une plus grande liberté d'action dans notre vie en Christ, et c'est ce que nous souhaitons au travers aussi de ces messages. Alors il y a aussi ce qui m'a fait réfléchir, c'est le fait que, vous savez, on dit toujours que quand on veut entraîner des gens à identifier des faux biais, il y a beaucoup de faux biais, hein, qui sont faits, mais qui ressemblent très très beaucoup à des vrais biais. En fait, la technique, c'est pas de montrer des faux biais pour leur dire voilà, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. On les entraîne à identifier le vrai biais, c'est-à-dire qu'ils passent du temps, des heures sur le vrai. Voilà. Et du coup, pourquoi ? Parce que les faux, il y en a tellement différents de faux que en fait, on ne peut pas vous apprendre tous les faux, puisque à chaque fois, il y a des nouveaux qui sortent, hein, des faux. Mais les vrais, ils sont uniques. Et si la personne a identifié le vrai dans sa tête, il peut déceler tous les faux. Voilà, c'est le principe. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Si nous comprenons notre véritable identité, eh bien, nous pouvons déceler le faux en nous, chez les autres aussi, hein, parce que on est dans un monde où l'ennemi veut toujours s'immiscer, et surtout dans les églises, parce qu'il n'est pas content de ne pas avoir pu arrêter Jésus sur le chemin de la rédemption, donc il s'attaque à l'église. Nous sommes l'église, et donc il y a beaucoup de combats, et surtout concernant l'identité. C'est pour ça que Dieu, il a donné les commandements à son peuple au travers de Moïse, et les premiers commandements, c'est « Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne feras pas une autre image que celle de Dieu. » Donc c'est le problème de l'identité qui est à la base de la séduction dans le monde. Alors, comme Olivier, j'aime bien les dessins, bon... ils sont un peu différents. Alors, attendez. Voilà, est-ce que ça va marcher? Voilà. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Non, c'est parce qu'il n'a pas commencé au premier. Voilà. J'ai commencé au dernier, alors. Je fais le message à l'envers. Voilà. Alors, je vais vous interpeller. Hein, vous interpeller. Et bon, ça va s'éclairer au fur et à mesure. Hein. Donc, je suis un peu plus dans de la culture, la culture aussi, biblique. Hein. Alors, je vais vous présenter le tétramorphe. Alors, déjà, ça commence mal. Hein. Ça veut dire quoi, tétramorphe? Ceux qui connaissent. Pardon? forme. Et c'est quoi tétra? Quatre. Pardon? Quatre formes, voilà, tétramorphe. Alors en fait, c'est un nom qui est dédié à un... Comment dirais-je? Il est dédié à la vision d'Ézéchiel, hein, à la vision qu'Ézéchiel a eue. Alors, pour ceux qui veulent connaître un peu plus dans la culture religieuse des 2000 ans passés, dans les églises chrétiennes, catholiques en particulier, mais aussi orthodoxes et autres, enfin toutes les anciennes églises, vous allez voir le tétramorphe un peu partout, que ce soit dans les rosaces, etc. Donc les pères de l'Église ont identifié ce tétramorphe comme étant la base de l'identité. Ça va éclairer un petit peu tout à l'heure. Alors comment il se présente? En général, il se présente sous cette forme-là. Vous voyez, il y a quatre figures symboliques, hein, des symboles, donc l'aigle, le taureau, ou le bœuf, ou le veau, ça dépend. Le lion, alors oui, c'est un peu une imagerie d'Épinal, hein. Et puis un homme. Donc ça, vous le voyez, ça c'est une illustration dans une, je sais plus dans quelle cathédrale, hein, que ce soit en haut, sur le côté, etc. Enfin, dans des illuminures, vous voyez le tétramorphe qui est représenté, etc. Alors l'image, les images suivantes, ça va être un peu une devinette. Je vais vous demander qu'est-ce qui rassemble, quel est le point commun dans ces images. Voilà. Quel est le point commun que vous y voyez, hein? Chaque image, dans chaque image, c'est des images que j'ai prises sur Internet, hein. Certaines sont des images très connues d'illustrateurs bibliques, comme... je ne me rappelle plus son nom, qui est dessiné celle-là. Celle-là, c'est des images un peu plus travaillées de chrétiens actuels. Et bien sûr, ça, vous avez l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce que vous voyez comme point commun? Il y a certainement beaucoup de points communs, mais un point commun qui pourrait vous... Pardon? Des ailes. Un point commun, des ailes, oui. Un autre point commun? Voilà. Il y a quelque chose qui est commun... et pour lequel je voudrais vous enseigner ce matin. Allô? Pardon? Parlez un peu plus fort, j'ai pas entendu Laurence.
Une apparence humaine, oui.
Mais ce que je voudrais juste que vous déceliez dans ces images-là, que je vais vous détailler après, des choses communes, une chose commune qu'on retrouve dans tous ces textes qui illustrent ces images. Vous voyez pas? Bon, on va le découvrir ensemble. Ok. Alors, on va commencer par le premier. Ça représente quoi, ça? Pardon? Adam et Ève. Oui. Qui sont chassés du jardin. Alors, nous voyons ça dans Genèse, chapitre 3, verset 24. Genèse, chapitre 3, verset 24. Il est dit qu'après avoir chassé l'homme... donc quand Dieu a chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. L'épée qui tournoie, en général, c'est un symbole, hein, c'est des symboles de la décision de Dieu, de la décision irrévocable de Dieu. Et en fait, ce qu'il fallait trouver, c'est les chérubins. C'est les chérubins. Alors, kéroubim, chérubin, ça veut dire envoyé, messager. Bon, c'est les yavistes, après, les yavistes et les yéloïstes qui s'expriment pas de la même manière. Ce sont des êtres symboliques, hein. Là, c'est dessiné un ange, mais il n'est pas marqué un ange, hein. C'est dit un chérubin. Donc, on verra que souvent l'iconographie, les images sont un peu fausses par rapport au texte. Le texte, il dit chérubin. Il dit pas un ange. Mais bon, en général, vous voyez ça sous forme d'ange. OK? La deuxième image, c'est quoi? Pardon? L'Arche de l'Alliance avec les deux chérubins. Voilà. Donc Genèse, chapitre 25. Bon, il y a beaucoup de textes, hein, qui en parlent, mais je prends juste ce texte-là. Genèse 25, 18. Il est écrit... alors, je crois que je me suis trompé. Pardon? Non, c'est pas 25-18, je me suis planté. 18-25, peut-être. Attends. Ben non, c'est pas Genèse, c'est Exode. Ça peut pas être Genèse, c'est Exode. Voilà, c'est ça. Tu es trompé de livre. Genèse, Exode, pardon, décidément. Exode 25, 18. Tu feras deux chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire, donc c'est le plateau au-dessus qui reçoit le sang, et tu les feras d'or battu. Un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins d'une seule pièce avec des deux extrémités du propitiatoire. Voilà. Voilà, donc ça c'est une image, bon, on pense qu'elle est assez proche de réalité, mais on n'en sait rien puisque l'arche on ne l'a pas retrouvée. Mais il y a un certain nombre d'iconographies qui présentent donc ces deux chérubins qui sont sur le trône, enfin qui sont sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance. Troisième image, c'est une image de la vision d'Ézéchiel. Alors, cette vision n'est pas facile à dessiner, hein, parce qu'elle est très complexe. On va la prendre dans Ézéchiel, chapitre 1er. Alors, on la voit, Ézéchiel présente cette vision au chapitre 1er, au chapitre 10 également, avec des petites nuances. Parce que c'est des êtres symboliques hein, qui sont présentés à Ézéchiel dans le ciel. Chapitre 1er d'Ézéchiel, il est dit qu'il a été emmené en vision par l'Esprit dans le ciel et il a vu, donc au verset 5, au centre, apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun d'eux avait quatre ailes, etc. Et donc on ne peut pas tout lire ce matin. Dans chapitre 10, il est à nouveau dans cette vision du ciel. Et voilà ce qu'il dit au verset 4. La gloire de l'Éternel monta de dessus le chérubin sur le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, le parvis fut rempli de la clarté de la gloire de l'Éternel. Verset 8. On voyait deux chérubins, une forme de mains humaines sous leurs ailes, etc. Il y avait quatre roues. Verset 14, chacun avait quatre faces. Les faces du premier étaient des faces de chérubin, les faces du second, les faces d'homme, le troisième de lion et d'aigle, etc. Bon, on a toute la description, hein. Je vous laisse lire ces passages pour plus de détails. Mais c'est assez compliqué ce qu'il voit. Et donc, vous voyez, c'est un ensemble où le dessinateur a voulu dessiner un petit peu le texte d'Ézéchiel. Donc vous voyez le trône de Dieu et vous voyez ici les chérubins hein, qui sont sous forme d'un hybride, un hybride à quatre faces et aussi une roue ici sur le côté gauche et il y en avait quatre comme cela. Alors bien sûr, depuis que la chrétienté existe, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle est la signification de tout ça? Est-ce que c'est des êtres réels? En quoi ça consiste, etc., etc. Donc, on n'a pas fini. Donc, je vais vous donner une approche qui me semble raisonnable. Ça, c'est une vision de quoi? Qui est tirée de quel livre? Pardon? Apocalypse, qui s'appelle Révélation, d'ailleurs, dans pays anglo-saxon, c'est la révélation et la révélation du ciel, la révélation voilà, de ce qui se passe aussi. Ça a été montré à Jean, l'apôtre Jean. Et là, les termes utilisés sont un peu différents. Ce n'est pas les chérubins, pas les kéroubim, mais c'est les êtres vivants. Donc dans Apocalypse chapitre 4, je lis un petit peu plus de versets. Après cela, verset 1, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, donc 6 fois 4. Sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les têtes esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Les quatre êtres vivants, vous les voyez là-haut, ici, là, là et là. Voilà, quatre êtres vivants qui sont les kéroubim, les chérubins dont il est question dans Ézéchiel. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant semblable à un veau ou un bœuf, le troisième le visage d'un homme et le quatrième un aigle. Et ils disent tous, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient. Ce sont les mêmes, la même vision qu'Ézéchiel. Il y a des centaines d'années auparavant, qui est donnée à l'apôtre Jean. Voilà. Alors, à partir de là, les pères de l'Église, donc ceux qui ont fondé le christianisme après les apôtres, ils ont créé ce qu'on appelle la doctrine chrétienne, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, avec une interprétation à l'appui. Et ces pères de l'Église nous sont tous communs, hein, que ce soit catholiques, protestants, évangéliques. Les pères de l'Église sont un peu les pères fondateurs de tout ce que nous pouvons croire. Et ces pères de l'Église ont tous mis l'accent sur le fait que c'est un message de Dieu pour que les croyants que nous sommes, nous puissions comprendre l'identité que nous devons avoir et qui est celle aussi que les êtres vivants qui sont dans le ciel, ils ont. Nous avons la même identité. Et ils ont rapproché ça aussi du ministère de l'identité de Jésus. Jésus qui était le nouvel Adam, celui qui a créé la nouvelle humanité, celle qui a été rachetée. Contrairement au premier Adam qui est déchu, cette nouvelle humanité a été rachetée. Et donc on voit les évangiles, et ce n'est pas un hasard qu'il y ait quatre évangiles. Ces évangiles, eh bien, représentent aussi, représentent ce tétramorphe, c'est-à-dire ces quatre formes d'êtres vivants. Et c'est aussi, bien sûr, les caractéristiques du ministère de Jésus. Donc, on peut le présenter sous forme symbolique, ce qui fait que ça simplifie un petit peu les images. Ça peut les compliquer dans la compréhension, mais ça les simplifie dans l'image. C'est que au milieu, vous avez un trône, c'est le trône de Dieu. Et autour de ce trône est soutenu. On voit dans Ézéchiel, ils soutiennent le trône, ou ils entourent le trône, ou voilà, tout autour du trône, il y a ces êtres vivants qu'on peut représenter par ces quatre formes qui sont à la base de l'évangile, d'ailleurs vous les avez en haut aussi, qui représentent les ministères de Jésus, donc l'identité de Jésus. Et il y en a quatre, puisque tout autour du trône il y en a quatre, et c'est l'équivalent des tétramorphes d'Ézéchiel, donc ces êtres vivants qui sont dans le ciel. Ce qui fait que sur la terre, il y a une similitude avec ce qui est dans le ciel. Sur la terre, nous devons être, que ce soit Jésus, qui nous a précédés, qui a été, nous qui sommes en Christ, ou l'Église, qui est la communauté des croyants, qui est aussi un corps, il n'y a pas plusieurs corps, même s'il y a plusieurs églises locales, il n'y a qu'un seul corps, nous devons ressembler à cette même identité qu'il y a dans le ciel, donc ce tétramorphe. Nous devons être quelque part un tétramorphe en termes d'identité. Là, je vous donne l'interprétation. On peut avoir plusieurs interprétations dans la position des évangélistes. Par exemple, l'évangile de Jean peut être associé au règne. D'une part, la couleur violette, c'est le règne. Ça a toujours été le règne spirituel, sur le plan spirituel, donc le violet, qui est porté par le sacerdoce, ceux qui ont le sacerdoce. Et on peut l'associer à l'aigle. Pourquoi ? Parce que l'aigle, c'est l'animal qui est dans le ciel et qui voit tout, qui plane. Et d'ailleurs, Ézéchiel a vu un aigle qui plane dans toute sa splendeur, vous savez, les ailes déployées, et qui voit, qui perce tout ce qu'il y a sur la terre. Et ça, Jésus l'a exercé, bien sûr, Et il l'exerce aujourd'hui, puisqu'il est dans le ciel. Et nous-mêmes, nous l'exerçons, puisque nous sommes assis avec lui dans le ciel. Vous voyez, il y a une sorte d'identité aussi qui nous correspond, hein, parce qu'en Jésus, nous pouvons avoir cette perception spirituelle, et en particulier lorsque nous avons besoin de nous débarrasser de l'ennemi qui vient, nous avons besoin d'un discernement spirituel et nous avons besoin de ce même discernement que Jésus avait pour identifier les esprits comme l'aigle le fait dans le milieu naturel. La deuxième forme de l'identité qui nous est indispensable, c'est celle qui concerne, enfin qui est décrite dans l'évangile de Matthieu, qui Matthieu s'adressait à des juifs et qui parlait surtout du Messie, que Jésus était le Messie, celui qui était oint pour apporter de bonnes nouvelles, qui était annoncé dans l'Ancien Testament et qui est arrivé en la personne de Jésus. Et là, on a le symbole de la colombe, qui est le symbole de l'esprit, et dans le domaine naturel, c'est le lion. Hein. C'est le lion, c'est la force, la puissance. Jésus a été revêtu de puissance, hein, comme le dit Dan Snead d'ailleurs, en renvoyant à ce message. Jésus lui-même n'avait aucune puissance sans l'esprit, puisqu'il était homme. Il avait laissé sa divinité, hein, donc en tant qu'homme, il n'avait pas plus de puissance que nous. Ben, c'est la puissance motrice, la force naturelle de l'homme, quoi. Mais dans l'esprit, et d'ailleurs on voit qu'il n'a commencé son ministère en tant que ministère terrestre de Messie, qu'après avoir reçu l'esprit quand il a pris le baptême. Il est dit que Jésus a reçu, l'esprit est descendu sur lui. Là, il a été tenté dans le désert et il a commencé son ministère de guérison, de puissance, etc. Il l'a fait par l'esprit. Et donc, cette puissance du lion qu'on voit dans l'animal naturel, eh bien, nous aussi, nous devons l'exercer. Et c'est surtout la puissance de la parole. La parole. La parole créatrice. Dieu dit et les choses arrivent. Et ça rejoint ce que Dan Snead nous a dit, et Jean-Paul Engler nous l'a réaffirmé, hein, cette puissance de la parole créatrice. Voyez-vous, plus que tout le reste, hein, ce qui est créateur, bien sûr, les mains sont créatrices, notre intelligence est créatrice, mais la parole, c'est quand elle sort de la bouche de Dieu, elle crée. Amen. Et nous aussi, quand nous invoquons le nom de Jésus, quand nous parlons aussi aux choses, nous pouvons être créateurs, mais aussi destructeurs. Hein. C'est le message de Jean-Paul où il dit, de la même bouche sort des bonnes choses et des mauvaises choses. Et il faut qu'il sorte de bonnes choses. Et donc c'est un défi pour nous d'avoir la même identité que Jésus. Dans Jésus, il n'y avait que des bonnes choses qui sortaient. Et des paroles de vie. Hein. Lazare sort. Lazare est sorti. Sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Et ça, nous devons aussi l'exercer dans notre vie quotidienne. Nous devons parler à la maladie. Au nom de Jésus. Nous devons ressusciter les morts. Amen. Au nom de Jésus. Il y en a qui veulent ressusciter des morts ? John Wimber, quand j'étais l'écouter, il a dit un gros problème, il fallait qu'il prie pour discerner qui il devait ressusciter, parce que tout le monde ressuscitait. On a dit, c'est pas juste, il y a peut-être un petit pépé qui ne voulait pas ressusciter. Vous voyez, ils avaient un gros problème de discernement. Parce que quand ils priaient, c'était en Afrique du Sud à l'époque, dans les années 80, ben, ils ressuscitaient comme des petits pains, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est un gros problème, ils avaient vraiment un gros problème. Nous, on ne l'a pas encore, mais bon, il peut arriver. Mais vous voyez, ça existe, c'est pas au temps de Jésus. C'était là il y a 20 ans, quoi, avec des hommes et des femmes qui croient, lui, John Dumas, je l'aimais bien parce que bon, c'est un homme rempli de l'esprit, mais qui faisait travailler des équipes. Il y avait tout le temps des équipes, il y avait des équipes qui venaient avec lui, et il nous expliquait que des tout petits jeunes qui juste accéder à la foi. Il leur dit, mais ça y est, tu pries pour les gens. Là, il y a une file de 100 personnes, tu pries. Et les gens sont guéris. Et prier. Puis à un moment donné, il voit le petit jeune qui rentre. Il dit, pasteur, ça marche plus. Et comment ça marche plus? Ça s'est arrêté. Les gens sont plus guéris parce qu'il a imposé les mains. Les gens étaient guéris. Il n'y avait rien. C'était juste d'accepter Jésus. Il a dit, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas y retourner. Et tu vas continuer. Et y retourner, ça continue. Et vous, on a tendance à s'arrêter, hein, quand ça ne marche plus. Mais c'est là qu'il faut continuer. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons. C'est la puissance de Dieu. C'est le lion de Juda qui a vaincu la mort. Amen. Et qui ressuscite les morts. Et qui guérit les maladies. Et qui fait tout ça. Amen. Vous croyez que c'est vrai? Vous croyez que c'est possible pour vous? Il faut le croire dans le cœur. Si on le croit dans le cœur, on va... Vous voyez, c'est notre peur, en fait, qui nous paralyse. C'est la peur. Le peur de dire, mais pour qui je vais passer? Je vais passer pour une bille, si ça ne marche pas, etc. Ça ne vous arrive pas, ça? Hein? Bon, ben voilà, il faut surmonter cette peur de passer pour une bille et simplement dire, mais Seigneur, oui, ça va m'aider dans mon humilité, mais c'est toi que je veux voir, c'est ta gloire que je veux voir. Amen. Hein? Vous voyez, c'est un défi, hein? Un défi contre notre chair. Voilà, donc Matthieu est le lion de Juda représenté par ce symbole de la colombe. L'évangéliste de Luc, lui, Luc d'ailleurs qui a écrit les Actes des Apôtres, hein, c'est le même évangéliste, lui c'est un médecin. C'est un médecin, quelqu'un de très instruit, hein, contrairement à Pierre qui était un pêcheur, etc. Et Luc, il commence son évangile par quoi? Il a quelque chose de particulier, l'évangile de Luc. Non, quelque chose de particulier par rapport aux autres, c'est quoi? Pardon? Non, il a quelque chose de particulier. Quand il commence son évangile, il faut que vous lisiez bien au début, il y a quelque chose de particulier. C'est un livre scientifique. Vous saviez que c'est un livre scientifique? Vous ne saviez pas ça, qu'il y a des apôtres scientifiques? Voilà, Luc était un apôtre scientifique, il était médecin, il a appris beaucoup de choses, il était lettré. Qu'est-ce qu'il dit dans son évangile? Pourquoi je dis que c'est un livre scientifique? Non, pas du tout. Pas du tout. Il dit, alors je ne sais plus exactement comment c'est traduit dans les versions, mais il dit, pour vous écrire tout ça, j'ai fait des recherches. Le scientifique, il fait des recherches. Il ne dit pas n'importe quoi. Je ne veux pas dire que Matthieu a dit n'importe quoi, mais je veux dire, Matthieu, ben là, il a dit ce qu'il avait envie de dire parce qu'il était juif, il voulait parler à des Hébreux, donc il a parlé, voilà. Marc, Jean aussi, il a parlé plutôt des visions, mais Luc, il a fait des recherches et il a voulu que tout ce qu'il écrive puisse être vérifié. Alors, lisez vos Bibles. Voilà, c'est particulier et c'est très spécial, c'est un livre scientifique. Ok? Et quand il l'a écrit, il peut dire vérifiez. Tous ceux, moi je ne sais pas combien il a fait de vérification pour que tout ce qu'il écrit, toutes les histoires qu'il a écrites dans l'évangile de Luc soient vérifiées. Il y a des témoins qui attestent, il n'y a pas que Luc qui l'a vu, il y a tout plein de. Donc vous voyez, c'est déjà à cette heure-là une volonté de nous donner la vérité dans ce qui s'est vu, dans ce qui s'est passé réellement. Donc, vous voyez, il est particulier cet évangile. Et c'est pour soi aussi, hein, le symbole de l'alliance, le symbole de la coupe. Parce qu'il présente parfait, Jésus, l'homme parfait. Hein. Donc, c'est la figure de l'homme, hein, tel qu'il devrait être, tel que Dieu nous a fait. Nous, on n'est pas parfait, mais Dieu a voulu être parfait dans nos paroles, dans nos. Vous voyez, dans Luc, c'est rapporté parfaitement de l'homme, Jésus, l'homme parfait. Donc, dans le tétramorphe, il représente cette image du visage de Marc. Marc, beaucoup plus petit, hein, l'évangile est beaucoup plus petit. Mais la particularité, c'est que ce miracle, tout ce que Jésus a fait, et il présente Jésus le serviteur. Le serviteur. Et rappelez-vous, c'est le Dan Snead, il a pris dans cet ordre-là, c'est le serviteur. Pas simplement Dieu, mais des hommes. Il était au service des hommes. Jésus est venu pour laver les pieds de ses disciples. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. C'est la caractéristique du ministère de cet être vivant qui se trouve dans le ciel, qui était en Jésus, qui est en nous, et qui doit être l'Église, en tant que corps. Ces quatre caractéristiques qui était la base du message de Dan Snead. C'est un, l'identité en Christ, nous régnons avec Christ dans les lieux célestes et nous sommes vainqueurs sur toute chose. Amen. L'identité en Christ. Cette identité, si nous l'avons réellement, eh bien nous sommes vraiment dans le cœur de Dieu, exactement comme cet être vivant qui est devant le trône et qui l'adore. Hein? Parce que c'est comme ça que Dieu nous veut pour que nous puissions être vainqueurs. Deuxièmement, il y a le lion de Juda. Il y a cette capacité à laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour annoncer les vertus de Dieu, pour avoir une parole créatrice, pour changer les choses, le cours des choses. C'est la puissance de la parole. Amen. Et troisièmement, le symbole de l'alliance de cet homme parfait, c'est d'être en accord parfait avec la volonté de Dieu, avec la volonté du Père. Jésus, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert pour obéir en toute chose à son Père. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il obéissait parfaitement à Dieu et c'est ainsi qu'il faisait la joie de son Père. Parce que son Père, il n'avait pas de conflit avec son Fils. Il lui montrait quelque chose, le Fils l'écoutait et il l'appliquait. Et très souvent, dans la nuit, il passait du temps avec le Père et dans la journée, eh bien, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Il guérissait tel malade, pas tel autre, il cherchait pas à comprendre. Il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Et nous, on cherche à comprendre. Ah, mais est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela? Mais écoute le Seigneur et fais ce qu'il te montre. Tu n'auras pas de problème. Et là, c'est l'homme parfait. Vous voyez, l'homme qui, ou la femme, hein, qui est en contact avec Dieu et qui fait sa volonté. Et Dieu dit, moi, ce que je veux, c'est pas des grandes choses, des choses religieuses, des pèlerinages, tout ça. Non, je veux simplement trouver sur la terre quelqu'un qui fasse ma volonté. Et c'est Jésus qui nous a appris, notre Père, dans cet esprit-là, de faire la volonté du Père. C'est pour ça que l'alliance, c'est cette alliance où un homme, une femme peut appliquer la parole, peut faire ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et Marc, c'est le serviteur. Les trois premiers s'adressent plutôt à Dieu, enfin les vertus de Dieu, parce que ça c'est pour annoncer les vertus du Christ. Le but d'un être vivant que nous sommes, c'est d'annoncer les vertus de Christ, c'est-à-dire la force de l'âme de Christ. Ça, Christ, il a fait tout ça dans ses ministères. Ces quatre principales vertus, et nous devons, notre but de l'existence, c'est d'annoncer ces vertus de Christ. Et là, c'est le service pour les autres. C'est le service vers les autres, c'est le service vers le plus malheureux, vers le plus faible, vers la veuve, l'orphelin, etc. Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour les prostituées, il est venu pour tout ça. Bien sûr, il a été critiqué. Parce que les chefs religieux avaient une autre vision. Mais vous voyez, il est venu pour servir. Donc le service, c'est à la base de ce que nous devons être si nous voulons avoir l'identité en Christ. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Pierre le dit autrement, mais c'est exactement la même chose, mais il le dit en tant que collectif, en tant qu'église. 1 Pierre 2 9, Pierre dit: vous par contre, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, etc. Après, il l'exhorte en tant que bien-aimé à suivre ses injonctions. Vous avez de nouveau les quatre formes du ministère auquel nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être un sacerdoce royal. C'est quoi le sacerdoce royal? Quand vous lisez ça, ça veut dire quoi? Ça vous dit, voilà, c'est très poussiéreux, c'est... C'est catholique, c'est, je sais pas moi, c'est quoi le sacerdoce royal? Vous êtes un sacerdoce royal. Oui, il y a des mots comme ça dans la Bible, alors on saute, ouais, c'est trop compliqué, je comprends rien. Bon. Pardon? T'es pas loin parce qu'il y a roi dedans? Pardon? Prêtre du roi, oui, parce que tu triches là. Eh, t'as qui fait l'école biblique là. J'attendais un peu plus. Alors, je te prends sur ton terrain pour voir si tu vas jusqu'au bout. C'est quoi un prêtre? C'est quoi un prêtre? Qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Ça, c'est un ancien, ça, mais bon. C'est quoi un prêtre? Vous voyez, sacerdoce royal, c'est pas évident, hein? On renvoie sur prêtre, mais prêtre, c'est mauvais parce que c'est une déformation catholique. On est beaucoup touché par le catholique. C'est presbytérium, de prêtre. Et ça, c'est ancien. Donc, c'est celui qui dirige, pas celui qui est sacerdoce. C'est pas la même chose, hein. Sacerdoce vient de sacer. Sacer, c'est quoi? C'est pas presbytère. Prêtre, c'est presbytère. Alors, il y a une grande confusion à cause des catholicismes qui confondent prêtre et sacrificateur. C'est pas du tout la même chose. Ouais, le prêtre, ils ont mélangé, mais c'est une erreur. Vous n'avez qu'à regarder dans Wikipédia, vous verrez. C'est une erreur fondamentale, mais tout le monde l'a fait. On l'a reconduit jusqu'à la fin des générations, et c'est faux. Qu'est-ce qui fait normalement un prêtre? Puisque tu as traduit par prêtre, mais c'est pas très bon. Sacrificateur. C'est le mot sacerdoce, c'est sacrificateur. Alors, on a beaucoup plus de mal avec sacrificateur qu'avec prêtre, parce que prêtre, on voit le curé, tout ça. Bon, sacrificateur, c'est quoi? C'est Ancien Testament, tout ça. Non, non, c'est toujours Nouveau Testament, sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait, le sacrificateur? Pardon? Ouais, t'es pas loin, mais comment? Non, non, c'est son sacrifice. Normalement, le sacrificateur, il apporte son sacrifice. Okay. Je ne parle pas du souverain sacrificateur, hein, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Hein. Dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur qui était médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est terminé, c'est Jésus. Donc, on va laisser Jésus de côté, puisqu'il n'y en a qu'un et qu'il n'est pas renouvelé. Qu'il est pour l'éternité, on le verra. C'est d'ailleurs l'agneau qui est sur l'image, là, qui est représenté dans l'Apocalypse. Vous avez Jésus qui est le souverain sacrificateur à perpétuité, qui est là, qui est l'agneau. Je sais plus où il est, l'agneau. Voilà, il est l'agneau. Parce que celui qui est sur le trône, c'est le Père. C'est pas Jésus. C'est le Père. Et l'agneau, c'est Jésus. Souvent, c'est... Mais le sacrificateur. C'est-à-dire, il y avait tout plein de sacrificateurs dans l'ancien Israël. Je sais pas combien ils étaient. Ils étaient toutes les Lévites, toute la famille de Lévi, Aaron, etc. Oui, ils apportaient des sacrifices tout bêtement. Des sacrifices. Il y avait tout plein de sacrifices. Des sacrifices pour les péchés, il y avait des sacrifices pour la reconnaissance, il y avait des sacrifices des grands, des petits, etc. Bon, tout ça, l'Église catholique l'a repris. Hein, ils n'ont rien inventé, sauf qu'ils se sont trompés de testament. Ils sont dans l'Ancien et nous, on est dans le Nouveau. Mais c'est la base du sacrifice. Un prêtre, enfin, c'est mal traduit parce qu'ils n'auraient pas dû mettre prêtre dans notre acception actuelle, mais sacrificateur, le sacrificateur, celui qui apporte des sacrifices, c'est tout simple. On cherche midi à 14h, c'est simple. Qui apporte des sacrifices. Parce que on ne peut pas être en contact avec Dieu sans sacrifice. Ça n'existe pas. Et les païens le savent. Tous les païens, même si les satanistes, c'est basé sur le sacrifice, parce que voilà, il faut passer par un sacrifice, hein, et ce sacrifice, c'est le sacrifice de nos vies maintenant. Hein. C'est plus un sacrifice d'expiation, c'est sûr, c'est Jésus qui a expié nos fautes, ok, mais c'est toujours un sacrifice. L'apôtre Paul, dans Romains 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand on fait un culte, on est dans un culte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit un culte raisonnable, c'est quoi? Un culte raisonnable, un culte qui est selon le cœur de Dieu. C'est ça, raisonnable. Ça veut dire quoi? Ben, apporter le sacrifice de vos corps. Voyez, c'est pour ça aussi on encourage qu'avec votre corps, vous soyez libre. Hein, bien sûr, on n'est pas libre parce qu'en Occident, si vous allez en Afrique, ils sont plus libres qu'en France, en Haïti aussi, tout ça. Bon, ça, c'est culturel. Mais on devrait, nous, être libres dans nos corps. Mais bon, on n'ose pas. Bon. Le corps, avec l'âme, avec l'esprit, doit adorer le Seigneur. Tout doit adorer le Seigneur, voyez-vous, parce que tout notre être doit être en adoration. C'est ça le sacrificateur. Et donc nous devons être des sacrificateurs pour l'Éternel, pour toujours, pour le roi. C'est ça le sacerdoce royal. on n'est pas, on n'apporte pas un sacrifice pour juste un petit seigneur là, dans un coin. Non, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi de l'univers. Et nous sommes des sacrificateurs. Donc nous avons le sacerdoce royal. Hello, ça vous parle là? C'est actuel ça? Ben, c'est ça. C'est le premier, la première description de cet être vivant, c'est ça. Hello? Ces êtres vivants que nous devons être aussi sur la terre. Alors, quatre, c'est symbolique, hein. C'est pas, il y a quatre êtres. Bon, il a peut-être vu quatre êtres, mais c'est symbolique. Mais c'est quoi le symbole de quatre? Quoi le symbole de quatre? Pourquoi quatre? Pourquoi pas six? Pourquoi pas cinq? Pourquoi pas huit? Pourquoi pas quatre? Et il faut connaître un peu les symboles de la Bible. C'est quelque chose de connu. Les pères de l'Église en ont parlé. Pardon ? Oui, c'est la terre. Ça veut dire que c'est la terre tout entière, le monde tout entier est rempli de sa gloire. Amen. C'est quatre. Parce que vous avez les quatre points cardinaux. Vous avez les quatre vents. Hein. Tout ça, dans Ézéchiel, vous le retrouvez. Les quatre. Et dans toute la Bible, le quatre, ça veut dire toute la terre. Hein. Et les roues qui étaient là, c'est simplement pour montrer que la terre, que ça concerne la terre. Et une bonne nouvelle, ou une mauvaise pour vous, mais n'empêche que c'est la vérité, c'est que nous ne régnerons pas dans le ciel, nous régnerons sur la terre. Alors, le ciel, ce sera juste une éclipse, comme ça, paf, et on reviendra sur la terre. Nous, nous sommes prévus pour vivre sur la terre. Bien sûr, une nouvelle terre, un nouveau ciel, mais sur la terre. Okay. Donc, quand il voit cette vision d'Ézéchiel, c'est une représentation de ce qui se passait sur la terre, mais qui se passe aussi dans le ciel. Dans le ciel et les êtres vivants qui adorent le Seigneur, et sur la terre, nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Déjà maintenant, prophétiquement, nous sommes une église prophétique qui annonce ce qui va arriver, mais plus tard, avec le Seigneur, pour l'éternité, nous serons sur la terre. Alors, ça vous réjouit ou pas? Je ne sais pas. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de morts, tout ça. Ben, okay. On a du mal à imaginer ça, mais ce sera une terre magnifique, hein, plus belle que la France, avec tous ces paysages jolis et tout ça. Voilà. Non, mais on est sur la terre. Alors, on est des créatures que Dieu avait prévues pour la terre, avec un corps et tout ça, un corps différent, hein, un corps qui sera parfait comme celui que Jésus a revêtu au moment de sa résurrection. Alors, je ne vous apprends rien là, vous savez tout ça. Donc, vous voyez, ce 4, c'est simplement la même chose que s'il n'y en avait qu'un, hein, puisqu'il faut se concentrer sur un, parce que le 4, c'est simplement une représentation symbolique de ce que ça couvre toute la terre. Et ça concerne tous les peuples, toutes les nations, toutes les races, tout le monde. Okay. Et tous, nous devons être des sacrificateurs. Ça, c'est le premier point. C'est le violet du règne. Nous régnons avec le Seigneur, mais au travers de l'être que nous devons être comme sacrificateurs. Nous ne devons jamais oublier ça. Et c'est pour ça que le culte est tellement important. Un culte de sacrifice qui est une bonne odeur au Seigneur. Dans un culte, il doit y avoir cette notion de sacrifice. Je viens, même si je suis fatigué, bon, bien sûr, si je suis comme Hélène, elle est très courageuse, elle est venue ce matin, mais bon, il peut y avoir des exceptions, mais sinon, je viens parce que je vais apporter un sacrifice, et sacrifice qui coûte. Il faut que je me lève voilà, à telle heure pour être là, pour apporter un culte au Seigneur et tout ça, voilà. Mais ça fait partie du culte. Je suis désolé. Si ce n'est pas un sacrifice, eh bien vous n'êtes pas sacrificateur, c'est tout. L'apôtre Paul a dit, ça doit être un sacrifice de vos corps, pas simplement de votre imagination, de votre tête et tout ça. Okay. Je décide de venir dans la maison du Seigneur pour apporter un culte à l'Éternel. Et ça, ça doit être une joie. Et c'est pour ça qu'il faut que dans les cultes, il y ait la joie du Seigneur et ma force. Amen. Mais c'est un culte. Et c'est notre raison d'être, c'est d'être sacrificateur. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit Pierre? Sacerdoce royal, il dit, vous devez être une race élue. Une race élue. Alors, race, il y a aussi tribu. Il y en a qui font partie d'une tribu. Une famille, une maison, voilà. C'est une race élue. Et ça, nous le faisons au travers de la colombe, là, qui est jaune. Nous avons la parole de Dieu qui nous unit. Et c'est les ministères de la parole. Dans une église, ce sont les équipes prophétiques. Apôtres, prophètes, pasteurs et docteurs et évangélistes. Ministère de la parole. Dieu donne Éphésiens 4, il a dit Jésus est descendu aux enfers, il est monté, il a emmené des dons aux hommes et il a donné ces quatre ou cinq ministères. Moi, je vois quatre, il y en a qui voient cinq, pasteur et docteur, c'est l'enseignement de la parole. Et ça, c'est la puissance de la parole, hein, de votre équipé avec la puissance de la parole. Amen. Voilà. Et c'est ce qui conduit aussi à notre compréhension de l'Église en tant qu'équipe apostolique. Troisièmement, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes une nation sainte. Amen. Une nation. C'est quoi la caractéristique d'une nation? Contrairement à une tribu, contrairement à autre chose. Quoi une nation? C'est politique. On n'ose pas utiliser ce mot politique. Oui, politique, c'est noble, hein. Politique. Ça veut dire que il y a une souveraineté, une nation a une souveraineté, et elle a le droit de se défendre. S'il y a des barbares qui viennent, il peut dire non, il y a une frontière là, tu vois, là elle s'arrête là. Ok? Là, tu passes pas là, hein, parce qu'il y a des habitants là, je les protège. Okay? Et ça, c'est un roi ou un État, voilà, qui font ça. Et qui fait de la discipline à l'intérieur en disant ah, oh, t'es citoyen d'une nation, tu connais les lois là? Contravention, tac, retrait du permis. Okay. Non, mais ça permet de fonctionner dans l'ordre. Okay. Bon, mais ça, c'est l'alliance. C'est le bleu. C'est la coupe. Okay. Et nous, nous voulons être en accord avec le Seigneur, avec sa volonté. Donc, nos lois, on les déduit des lois du royaume de Dieu, pas simplement des lois qui nous font plaisir, mais des lois qui sont conformes à celles du royaume. Et enfin, l'apôtre Pierre dit, vous êtes un peuple. Comment? Un peuple comment? Joanne. Racheté. Dis-le, racheté. Racheté. C'est quoi la particularité d'un peuple racheté? C'est pas un peuple normal. C'est un peuple racheté. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on rachète en tant que peuple? Ben, la culture, déjà. Vous voyez, c'est très pratique tout ça. C'est très pratique. Ça nous renvoie à nos responsabilités de ne pas vivre comme, voilà, je suis du peuple, voilà, je suis haïtien, je suis morave, je suis tchèque, je suis français, je suis... Non, je suis un peuple racheté. C'est autre chose, ça. C'est que ma culture, je la soumets à celle du royaume. Vous voyez, c'est ça toute la différence. Si nous sommes sur ce tétramorphe, dès maintenant... Mais nous serons en accord avec celui qui est dans le ciel. Et alors là, nous pouvons jouir pleinement de la vie. Voyez, mettre en cause notre culture, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu dans la culture. Des choses qui sont vraies. Regardez les cultures, je sais que la culture alsacienne, les Alsaciens, voyez, ils se battent. Hein. Attention, hein. Non, on ne partage pas. Non. Ça, c'est, voilà. Les Normands aussi. Hein. Mais dans la culture, qu'est-ce qu'il y a dans la culture normande? Des beaucoup de choses occultes. Ils mettent des fers à cheval sur, devant les trucs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un tas de choses. Du sel dans les maisons. Vous voulez suivre cette culture? Sel dans les maisons, des fers à cheval dessus qui vous protègent, etc. Enfin, j'en passe les meilleurs. Vous voyez que la culture normande, c'est pas terrible. Ben voilà, il y a des... En Alsace, je pourrais vous en raconter aussi. Moi, je suis parti là-bas, j'en avais marre. Okay. Mais bon, partout, il y a des cultures qui ne sont pas enracinés dans la parole. Et Dieu veut racheter nos cultures. Et il veut arracher quelqu'un de sa culture pour le transformer, vous voyez une moulinette là, transformer, et le renvoyer dans sa culture. Pas simplement l'arracher et le dire, oh oui, là tu es dans un monastère et tu vas adorer le Seigneur, mais attention, dehors, c'est mauvais. Tu sors pas, hein, ok, c'est mauvais. Non, la Bible dit qu'elle nous arrache à la culture, nous transforme et nous renvoie dans la culture comme des lettres vivantes. Il faut qu'on lise sur nous qui nous sommes. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi du chrétien. Amen. C'est de transformer la culture, d'être le sel et la lumière de l'air. Amen. J'arrête là. Pour vous montrer que le tétramorphe, qui est dans toutes les églises, vous le verrez partout, pour ceux qui ont un peu de culture, qui vont dans les églises qui remontent des siècles et des siècles, ils ont compris cela. Maintenant, il faut l'appliquer. Ça, c'est autre chose. Donc l'appliquer, c'est effectivement l'appliquer à nos vies. Nous, on l'a fait pour notre Église, donc c'est ce qu'on va vous proposer dans les textes légaux, d'avoir ces quatre facettes dans l'Église, comme nous le voulons avoir dans notre vie individuelle, comme Jésus l'a manifesté, et comme c'est manifesté dans le ciel par ces chérubins, qui sont les yavistes qui ont imaginé le messager et l'envoyé, ou les êtres vivants, tels que les éloïstes le présentent, et l'évangile de Jean nous le montre, c'est les êtres vivants, qui sont devant le trône, et qui représentent ces quatre facettes aussi du ministère de Jésus, qui sont notre but et notre vocation, c'est de manifester les vertus de Dieu, les vertus de Christ qui les a manifestées sur la terre. Dieu veut une destinée pour chacun de nous extraordinaire, individuelle et collective, et nous voulons entrer dans ce plan. Amen. Il y en a qui veulent entrer dans ce plan. Alors prions. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi que tu nous as appris ce Notre Père, qui n'est pas simplement une récitation, Seigneur, que tu nous as demandé de faire, mais qui est le plan parfait pour ton peuple, pour l'humanité, pour nous-mêmes, Seigneur. Et nous voulons nous l'appliquer à nous. Et pour cela, nous voulons, comme disait l'apôtre Paul, faire des efforts pour y entrer. Non pas laisser notre chair nous dominer et nous laisser dicter sa volonté ou la culture ambiante ou tout ce qui dans le monde, Seigneur, nous pousse à cela, mais l'apôtre Jean a dit que celui qui aime le monde est en inimitié contre Dieu, Seigneur. Et nous ne voulons pas être en inimitié avec toi, nous voulons, Seigneur, être en accord avec toi. Et pour cela, nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à vivre dans cette identité, que nous puissions la comprendre, cette identité. Et Seigneur, ces derniers temps, tu nous l'as rappelé à travers des frères de manière différente. Là, c'est encore une autre présentation, mais qui est la même. Seigneur, que nous soyons ces êtres vivants autour du trône de Dieu. Et là où nous sommes, que nous puissions présenter, Seigneur, cet être vivant que nous voulons être. Seigneur, donne-nous à chacun d'entrer dans ces réalités. C'est une réalité que tu nous présentes, pas simplement, Seigneur, une fiction, mais tu veux que nous soyons comme cela. Et nous t'en remercions, Père, d'avance, au nom